par 10 minutes sur le souffle, donc pour vraiment prendre un petit peu l'habitude, se familiariser avec cette pratique. Et de par la force de l'habitude, en fait, cette pratique va devenir de plus en plus puissante et nous sera de plus en plus utile et nous permettra, par exemple, quand nous serons esclaves de nos perturbations mentales, d'appliquer cette méditation et pacifier les perturbations mentales, de donner une coloration neutre à l'esprit et après, par la suite, de développer des qualités telles que la sagesse, l'amour ou la compassion. Donc, petit récapitulatif de la pratique toute simple. On place notre attention au niveau des narines et simplement on regarde sur ce point ce qui se passe à chaque inspiration, à chaque expiration, sans jamais essayer d'interpréter quoi que ce soit, une simple observation, un simple regard. Et l'esprit, il a très forte chance d'être distrait. Et on remarque juste donc qu'on pense à autre chose et on replace notre attention sur donc ce point à l'entrée des narines. Petite minute. Maintenant, on génère pensée d'amour et de compassion, ce très fort désir que tous les êtres sans exception obtiennent le bonheur, mais aussi continuellement créer les causes de ce bonheur, et qu'ils soient tous libres de la souffrance et des causes de cette souffrance, qu'ils soient tous libres de l'ignorance, de l'attachement, de la colère, de l'orgueil, de la jalousie, que plus jamais ils ne commettent d'actions négatives. Et avec un tel esprit, on récite les prières, page 7. Tout en français. Devant vous, le Maître, le victorieux qui a transcendé la souffrance, l'insialé, le destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Shakyamuni, je me prosterne. En vous, je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi votre bénédiction. Devant vous, le Maître, le victorieux qui a transcendé la souffrance, l'insialé, le destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Shakyamuni, je me prosterne. En vous, je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi votre bénédiction. Devant vous, le Maître, le victorieux qui a transcendé la souffrance, l'insialé, le destructeur de l'ennemi, Bouddha parfaitement accompli, glorieux conquérant Shakyamuni, je me prosterne. En vous, je prends refuge et vous présente des offrandes. Accordez-moi votre bénédiction. Hommage à la sainte perfection de la sagesse. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavat se trouvait à Rajakriya, sur le pic des vautours, en communion spirituelle avec la grande assemblée des moines et la grande assemblée des bodhisattvas, quand il s'absorba en la méditation sur les innombrables existants, appelés visions du profond. En même temps, le grand noble bodhisattva Avalokiteshvara entreprit une méditation sur la profonde sagesse parfaite et il réfléchit à ce que les agrégats également étaient vides de nature propre. Et par le pouvoir du Bouddha, Shariputra s'adressa en ces termes au grand noble bodhisattva Avalokiteshvara. Les fils et les filles de la lignée désireux de pratiquer la profonde sagesse parfaite, comment doivent-ils s'y prendre? Le grand et noble Bodhisattva Avalokiteshvara répondit alors à Shariputra. Shariputra, les fils et les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde sagesse parfaite doivent prendre en considération ce qui suit. Ils doivent réfléchir avec soin et précision à ce que les agrégats sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité comporte la forme. En dehors de la forme, il n'y a pas de vacuité. En dehors de la vacuité, il n'est pas de forme. De même, la sensation, l'identification, les formations volitionnelles et la conscience sont-elles vides? Shariputra, ainsi, toutes les existences sont-ils vacuités? Ils n'ont pas de spécificité. Ils ne sont ni produits, ni détruits, ni souillés, ni maculés. Ils ne croissent, ni ne croissent. Shariputra, ainsi, la vacuité n'a-t-elle ni forme, ni sensation, ni identification, ni formation volitionnelle, ni conscience? Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil à l'élément de la conscience du mental, elle n'a pas d'élément. est dépourvue d'ignorance comme d'élimination de l'ignorance. De même est-elle l'une du vieillissement et de la mort, ainsi que de l'élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, la vacuité n'a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Elle n'a ni sagesse, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la sagesse parfaite et ils demeurent en elle. Leur esprit étant sans voile et sans peur. Et comme ils sont bien au-delà de toute erreur, finalement ils parviendront au nirvana. C'est en s'appuyant sur la sagesse parfaite que les bouddhas des trois temps, eux aussi, obtiennent l'éveil parfait, accompli, sublime. Aussi le mantra de la sagesse parfaite est-il le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra sans égal, le mantra qui apaise à jamais toute peine. Il faut savoir que ce mantra est véridique puisque sans mensonge. Et voici ce mantra. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi que les grands bodhisattvas doivent pratiquer la sagesse parfaite. Puis le Bhagavat sortit de sa concentration et remercia le grand et noble bodhisattva Okteshvara en l'approuvant. Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi. Et c'est exactement comme tu l'as exposé qu'il convient de pratiquer la grande sagesse profonde. Et tous les Tathagatas se réjouissent. Lorsque le Bhagavat lui dit cela, Shariputra, le grand et noble Bodhisattva Okteshvara, l'entourage muni de toutes les qualités, les déités, les hommes, les Asuras et les Kinaras, se réjouissent et louent les paroles du Bhagavan. Et on continue page 11. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois lieux, demeurant dans le Saint Yoga, jouissant de l'espace, par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de son enfant. Akasamara Sachanasamayape. Tayata, gate gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Par la vérité de l'existence des trois joyaux, que soient surmontés tous les obstacles et difficultés externes et internes, qu'ils deviennent inexistants, qu'ils soient apaisés. Que soient complètement apaisées toutes les forces négatives opposées au Dharma, que soient apaisés les 80 000 obstacles, puissions-nous être séparés de toutes les conditions adverses et obtenir des circonstances favorables et tout ce qu'il y est bon, qu'il y ait ici heureux présage, bonheur et bien-être sur le champ. Cette terre, ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je vous envoie ce mandala de joyaux, ô maître précieux. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Grâce et mérite accumulés par l'écoute de l'enseignement, puissais-je atteindre la bouddhéité afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Grâce et mérite accumulés par l'écoute de l'enseignement, puissais-je atteindre la bouddhéité afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Grâce au mérite accumulé par l'écoute de l'enseignement, puissais-je atteindre la bouddhéité afin d'être bénéfique à tous les êtres. Les prières qu'on récite le matin, et puis en général avant les enseignements, sont faites pour accumuler du mérite, donc pour créer une énergie très positive, pour écarter tous les obstacles, pour qu'on puisse comprendre au mieux un petit peu les enseignements du Bouddha. Donc c'est pour ça qu'on récite cet hommage au Bouddha Shakyamuni, suivi du Sutra du Cœur, qui traite de en fait, la sagesse qui comprend, qui réalise la vacuité des phénomènes. Ensuite, il y a cette prière de la Dakini au visage de lion, qui est une prière spécialement pour écarter les différents obstacles qu'on pourrait rencontrer. Après, il y a l'offrande du mandala. Le mandala, c'est la description de l'univers tel qu'il est décrit dans des textes anciens indiens, qui ne correspond pas forcément tout à fait à la perception occidentale de l'univers. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on offre tout l'univers, les plus belles choses qui sont dans l'univers, et on les offre aux êtres complètement purs, qui sont êtres d'amour et de compassion et de sagesse. Suivi de la prise de refuge et de la production de l'esprit d'éveil. Donc là, j'aimerais parler un petit peu en introduction justement de la prise de refuge et de l'esprit d'éveil. Là, on récite juste en tibétain, c'est quatre lignes. Et ces quatre lignes, elles sont faites juste pour nous rappeler un petit peu une certaine méditation et un certain état d'esprit. Donc, il est bon de réciter ces mots-là, mais pas juste de les réciter que comme en étant un perroquet, mais essayer de générer cet état d'esprit, du refuge et de l'esprit d'éveil. Qu'est-ce que c'est que le refuge? Le refuge bouddhiste, c'est, comme le mot refuge l'indique, c'est on a des problèmes, on a des difficultés, et on va essayer de retrouver un refuge, de trouver un état qui est libre de ces problèmes. Problème fondamental tel qu'il est décrit dans le bouddhisme, qu'est-ce que c'est? L'origine de tous les problèmes, de tous les maux.
L'ignorance.
Bon. L'esprit, et plus particulièrement un aspect de l'esprit qui est l'ignorance, effectivement. La petite interrogation orale. L'ignorance, qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien silencieux ce matin. Donc, de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, de se tromper sur la réalité, la nature ultime des choses. Quelle est l'erreur qu'on fait? Généralement, les bouddhistes, les grands maîtres bouddhistes disent un être ordinaire, il est ignorant. Donc, il se méprend sur la nature des phénomènes, sur la réalité des phénomènes. Comment il perçoit les phénomènes? Comment il perçoit la personne? Comment il se perçoit
avec
soi-même?
Avec nos sens.
Non, mais.
L'existence sur son côté.
Oui, pas comment on est capable de percevoir les choses, mais intérieurement, comment on conçoit les choses. Donc, Jean-Paul dit comme existant.
De son propre côté.
De son propre côté. Ça veut dire
indépendant.
Quoi, ça?
Séparé
de l'autre.
Séparé de l'autre. ce qui est sûr, c'est que quand on dit séparé de l'autre, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une séparation. Là, il y a une séparation physique qui existe, c'est clair, d'accord. Là, ce qu'on essaye de vraiment pointer du doigt, c'est un mode d'existence très solide, indépendant, qui ne dépend absolument pas de quoi que ce soit d'autre, qui est complètement séparé, qui n'a aucune connexion, d'accord. Donc, c'est presque, vous voyez, comme je vis en Italie, je fais des gestes avec les mains, mais c'est à un niveau très grossier, c'est presque, on pourrait dire, quelque chose qui existe vraiment comme une boule sans dépendre de rien. À un niveau plus subtil, ce serait ne serait-ce qu'un petit atome d'existence indépendante. On se conçoit comme étant un être complètement indépendant. Quand on a, par exemple, une émotion très forte, très souvent, on a presque un nœud au niveau du plexus solaire. Non? Et on a, si par exemple, on a un danger mortel, on est en voiture, par exemple, on conduit, on descend de la montagne dans le brouillard et d'un seul coup c'est par une plaque de glace et on commence à partir droit dans le vide. Qu'est-ce qui se passe au niveau physique, émotionnel? Ça serre comme ça. Qu'est-ce qui serre? C'est cette impression d'un jeu qui est en danger, non? Un jeu très fort, très solide. Donc d'une manière exagérée, ça ne nous arrive pas tout le temps, mais d'une manière très très prononcée, voilà l'erreur qu'on fait. On pense être quelque chose d'extrêmement solide, séparé du reste. Et là, il y a quelque chose qui va nuire à ce jeu. Donc ce jeu se manifeste d'une manière extrêmement prononcée. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on existe comme ça? Comme étant si solide, si indépendant?
Non.
Eh, je ne vais pas vous manger. Hein. De quoi, par exemple?
Des choses qui sont passées dans notre vie, des choses qui vont qu'on suit. On a une partie qui n'existe pas sur soi. Mais,
Donc c'est vrai, en fait, si on examine vraiment ce qu'on est, on est un corps et on est un esprit. Mais le corps, il est constitué d'une multitude de choses, multitude de parties lui-même, d'esprit pareil. Même ces parties pour être, elles dépendent d'autres choses. D'accord? Le corps et toutes ses parties, pour fonctionner, il dépend de l'air qu'on respire, il dépend de la nourriture, il dépend. Donc plus on va chercher, essayer de trouver une entité qui ne dépendrait de rien, pointer du doigt et dire c'est un je suis ça, plus on fait cet examen, plus tout se dissipe et disparaît complètement. Et moins on arrive à justement pointer du doigt et dire ah ben je suis ça. Vous suivez ou pas? Par exemple, on prend l'exemple de la voiture. Là, vous m'avez dit, il y a vraiment cette crispation très forte, et il y a un nœud énorme, presque, c'est tellement fort qu'on pourrait presque prendre, c'est comme si c'était un peu une pierre ronde, et la sortir et dire, ah ben tiens, c'est, voilà, je suis ça. Mais si, par exemple, on garde cette sensation, d'accord, et on va dire, ah, alors apparemment c'est ça le jeu. Plus on va essayer de, par l'analyse, de le rechercher, plus on va s'apercevoir qu'en fait, ben non. Parce que parfois j'ai l'impression d'être le jeu, c'est le corps, parfois c'est l'esprit. Mais le corps, si on regarde dans le détail, qu'est-ce que c'est que le corps? C'est constitué d'une multitude de parties. Donc il n'y a pas cette chose qui ne dépendrait de rien, qui ne dépendrait d'aucune partie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment deux appréhensions qui sont complètement diamétralement opposées et qui ne peuvent pas coexister ensemble. Une façon de percevoir les choses qui existeraient sans dépendre de rien du tout. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Et plus on examine, plus on s'apercevra que les choses et nous-mêmes, nous dépendons entièrement, complètement d'un ensemble de choses. Donc là, il faut que je revienne. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça commence fort. Donc, on était au refuge. Hein? Oui, donc un problème. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. La cause du problème, c'est cette erreur, donc cette ignorance. Sur la base de l'ignorance, on a vu hier, qu'est-ce qu'on fait? On développe deux autres aspects mentaux qui sont assez négatifs. L'attachement et l'aversion. Là-dessus, on va commettre on va générer d'autres perturbations mentales et on va agir. Ces actions, très souvent, sont d'une part contaminées par notre ignorance et donc sont des actions contaminées et d'autre part, elles sont très souvent négatives. Dans le bouddhisme, pourquoi on dit qu'une action est négative? Vous vous rappelez?
Juste. Il donne un karma négatif, il donne quelque chose aussi.
Ben, quand on dit karma négatif, qu'est-ce que ça implique?
Le samsara.
Oui.
Ça nuit aux autres et à soi-même.
Donc l'action elle-même est une cause qui va entraîner un résultat qui sera un résultat de souffrance. Okay, donc on dit négatif, pourquoi? Par rapport à l'expérience qui va être faite, résultat de cette action. Ok? Donc effectivement, après, d'un autre côté, quand on regarde généralement les actions négatives, quand on les commet, elles nuisent à quelqu'un aussi, elles nuisent à autrui. Donc raison de plus de s'en abstenir. Notre situation, c'est cette situation, nous, être ordinaire, on vit plus ou moins complètement contrôlés par l'ignorance, nos perturbations mentales qui nous poussent à agir. Tout ça, ça nous fait prendre renaissance, ça nous fait faire des expériences douloureuses. Ouais. Donc, on a un problème, apparemment. Vous êtes d'accord ou pas?
Oui.
Si on n'a pas de problème, c'est pas bon, donc on ne peut pas aller se promener dans la montagne. Mais... on a un problème, donc il faut essayer de trouver une solution. Comme si on est pris dans une tempête de neige dans la montagne. On cherche quoi? On cherche un refuge, on cherche un abri. On cherche une solution. Là, on a un problème. Donc, il faut chercher une solution. Selon vous, c'est quoi la solution? C'est dur, hein? Dimanche,
madame,
là.
La cause de cette ignorance, on va découvrir qu'est-ce que c'est la cause de l'insouffrance.
Donc là, on a vu que c'était l'ignorance.
Oui, alors, il faut voir d'où vient cette ignorance et éviter qu'elle soit là.
Comment faire pour éviter qu'elle soit là?
On va réfléchir sur l'esprit, d'où ça vient, pourquoi il y a une cause et je suis ignorance, alors la cause, il est là, alors il faut chercher.
Et puis, une fois qu'on a donc vu qu'on souffre, on a vu la cause, l'ignorance, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc, prendre refuge.
En quoi? En quoi? Qu'est-ce qui va permettre à l'ignorance de disparaître?
Les qualités positives.
La connaissance. Quel est l'antidote direct à l'ignorance? Synonyme de connaissance.
La sagesse.
La sagesse. La seule chose qui peut détruire l'ignorance, c'est quoi?
La sagesse.
La sagesse. Quel est le refuge imparable à l'ignorance? Dans quoi on doit prendre refuge? La sagesse. D'accord? Et en fait, si on regarde, quand on dit je prends refuge, là, dans la prière, non? Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. On a dit que on prend refuge véritablement pour pouvoir complètement se détacher de l'ignorance dans la sagesse. Oui. Quand on dit « je prends refuge dans le Dharma », en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « je prends refuge dans la sagesse qui réalise la vacuité ». Ok? Donc, au lieu de... en fait, quand on récite cette prière, on devrait penser à tout ce qu'on vient de faire là. On devrait presque faire cette méditation de se dire « ah, je souffre, d'accord ? Je suis dans une situation de souffrance, j'ai beaucoup de problèmes. » Des souffrances très grossières, des souffrances plus subtiles, des souffrances extrêmement subtiles. Parce que là, on n'a pas vu, mais même dans le bouddhisme, les sensations plaisantes, si elles trouvent leur origine dans l'ignorance, elles sont considérées comme étant de la nature de la
souffrance.
Souffrance, chose étrange, non ? Ils sont bizarres, ces bouddhistes, des fois. Ils disent des trucs... Donc, même parce qu'il y a toujours la cause essentielle, primordiale de la souffrance, l'ignorance, tout ce qui est créé sur cette base... à cette nature. Ça, on verra plus tard quand on parlera vraiment dans un des autres modules de la souffrance. Je ne sais pas dans quel module c'est présenté. Agnès. Oui.
Vous avez dit que les sensations plaisantes.
Ouais, c'est bien ce que j'ai dit. Donc, même, peut-être je vais. Elles prennent racine dans l'ignorance. Donc, elles ont une nature contaminée. Et en fait, pourquoi on dit ça dans le bouddhisme? C'est que une sensation plaisante, c'est indéniable, elle est plaisante, elle apporte un certain bien-être, ça on ne discute pas là-dessus. Par contre, si on va vraiment un peu plus analyser cette sensation en profondeur, sa nature véritable, si sa nature véritable c'était d'être du bonheur, plus on expérimenterait cette situation qui procure ce bien-être, plus on devrait éprouver du bonheur. Vous êtes d'accord ou pas? Si vraiment la nature essentielle de cette expérience, c'était du bonheur. Élise, elle aime bien les chocolats de... Comment ça s'appelle, là?
Thériou.
Hein?
Du Thiroum
Jacques Ariou.
Jacques
Ariou.
Oui.
Ah, Jacques Ariou, d'accord. Donc, le chocolat, on part sur le principe de dire le chocolat, en lui-même, c'est du bonheur. D'accord, pur. Non, le bon chocolat. Non, mais vous y êtes pas allé. Hein, ça se voit, vous y êtes pas allé. Moi non plus. Donc, quand on commence à boire du chocolat, effectivement, ce qui se passe, c'est on avait un certain désir, une certaine insatisfaction. On boit le chocolat. Il y a les papilles gustatives là qui sont toutes stimulées et on génère une certaine sensation donc plaisante. Diminution d'une sensation déplaisante d'insatisfaction, par exemple. Ouais. Et on profite. Si vraiment ce chocolat avait la nature du bonheur, plus on en consommerait, plus on devrait être dans l'extase. Donc je ne sais pas quelles sont vos capacités, mais bon, un chocolat, deux chocolats, trois chocolats, je pense que déjà... 4 chocolats, 5 chocolats, plus du tout sensation plaisante. Là, en fait, on ne parle pas que le chocolat a apporté une sensation plaisante. On dit que le chocolat, en essence, il n'a pas cette nature de bonheur. Et si on va l'expérimenter, il va y avoir effectivement la musique. C'est qui fait la musique ? C'est ta gourde.
C'est
un portable. C'est un portable. Donc, la sensation plaisante, c'est juste un état d'esprit auparavant qui est un état de souffrance, sensation de souffrance. Il y a cette diminution de souffrance, d'accord. Il y a ce moment un petit peu de plaisir, mais si on perpétue cette action, elle va de nouveau se dissiper et se transformer en une sensation vraiment déplaisante. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on dit que la sensation plaisante, si elle est créée sur la base de l'ignorance, en essence, elle n'est pas de la nature du bonheur. Elle a la nature de la souffrance. Ok ? Et il y a même un niveau de souffrance encore plus subtil qui dit, parce qu'on a juste ce corps, cet esprit, qui trouve son origine dans l'ignorance, c'est le support parfait pour expérimenter les niveaux de sensations plus grossiers, de souffrance ou de plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit que j'aille prendre une aiguille, par exemple, dans un des tiroirs là-haut, ou un couteau, que je me le plante dans le bras, ça va faire mal. Ce corps, tel qu'il est constitué, mon esprit tel qu'il est constitué maintenant, c'est le potentiel parfait pour expérimenter la souffrance. Ce potentiel en soi, déjà, c'est une souffrance. Pour nous, on ne peut pas arriver à le ressentir, mais il paraît que les grands yogis, en fait, quand ils ont pleinement conscience de ce potentiel de souffrance, c'est quelque chose qui est extrême, qui n'est pas agréable et qui est de la nature, encore une fois, de la souffrance. Ok ? Donc, on en revient au refuge. Nous sommes dans une situation de souffrance qui trouve sa racine dans l'ignorance. S'il n'y avait pas d'ignorance, il ne pourrait plus y avoir de souffrance. Plus du tout, d'accord ? Sur la base de cette ignorance, encore une fois, on génère des perturbations mentales. On génère des actions contaminées qui nous rendent esclaves et qui nous propulsent dans des situations indésirées. Il nous faut donc trouver un refuge. Le refuge ultime, c'est la chose qui va déraciner complètement l'essence même, la cause même de tout ce processus, l'ignorance. Donc l'antidote à l'ignorance, c'est la sagesse qui réalise la vacuité ou la nature véritable des phénomènes. Il n'y a pas d'autre antidote pour cette ignorance. Pour nous libérer de la souffrance, nous ou les autres, nous avons besoin de cette sagesse. Donc quand on prend refuge dans le dharma, qui est le véritable refuge en fait, on sous-entend prendre refuge dans cette sagesse. Quand on récite cette prière, je dis « je prends refuge dans le dharma », on devrait penser, on devrait générer cette compréhension en nous, et vraiment, on devrait essayer de générer cette très forte aspiration, souhait de s'en remettre complètement à la sagesse, sagesse extérieure ou notre propre sagesse, pour détruire complètement notre ignorance, l'ignorance extérieure aussi. D'accord ? Donc, est-ce que là, prendre refuge dans le dharma, ça vous parle un petit peu plus ? Ouais ? Parce qu'il faut bien comprendre que là, dans ce contexte, le dharma, si vous ouvrez un livre, par exemple, qui explique la prise de refuge, c'est pas le dharma en général, c'est le joyau du dharma. Et le joyau du dharma, ça se réfère à ce qu'on appelle la véritable cessation et le véritable chemin. Donc, pour décoder ce charabia philosophique, ça veut dire, en fait, prendre refuge dans la sagesse qui réalise directement la vacuité des phénomènes. Ou, si vraiment on veut être très précis, un des aspects, c'est on prend refuge dans la vacuité de l'esprit qui réalise la vacuité des phénomènes. Pourquoi après on dit on prend refuge dans le Bouddha ? Le Bouddha, c'est un être qui est pleinement éveillé, ça veut dire qu'il a abandonné complètement toutes les fautes, toutes les perturbations mentales. Il n'y a plus du tout d'ignorance, plus du tout d'attachement, plus du tout de colère, plus du tout d'orgueil, de jalousie. D'accord ? Il ne commet absolument plus aucune action négative. Il n'est que de l'amour pur, la compassion pure, la sagesse pure, un esprit complètement omniscient. Cet individu, il explique de manière parfaite comment développer la sagesse. Il l'explique sans la moindre erreur. Donc c'est la personne en qui on peut s'en remettre complètement pour apprendre ce qu'est la sagesse. C'est pour ça qu'on prend refuge dans le Bouddha. Enfin, il y a le troisième joyau dans lequel on prend refuge, c'est quoi ? L'assemblée. Qu'est-ce que vous pensez que c'est dans ce contexte l'assemblée, la sangha ? Ça pourrait être les maîtres.
C'est aussi les gens qui entourent, qui apprennent.
Donc je prends ton... Généralement, la sangha, ce qu'on appelle la sangha, c'est dans la tradition Gurukpa, on dit c'est par exemple 4 moines ou 4 nonnes pleinement ordonnées, réunies, ça fait la sangha. Donc d'une manière générale, on parle des personnes qui sont ordonnées, ou maintenant d'une manière un peu plus ample, ou dans d'autres traditions comme l'Enigmapa ou... forcément, la communauté monastique n'est pas forcément très répandue, on dit la communauté des pratiquants. Donc, si on prenait refuge dans cet aspect de la sangha, moi je dirais qu'il y aura peut-être un problème. Pourquoi ? Je pratique un petit peu, d'accord ? Donc quelqu'un peut dire, ah, il fait partie de la sangha. Oui ou non ? Ah,
Maharaji commence à avoir un problème, parce que moi je suis rempli d'ignorance. Donc vous prenez refuge dans de l'ignorance. Ça ne va pas vous aider. Donc ultimement, on ne peut pas prendre refuge là-dedans. Donc dans ce contexte, quand on dit le Sangha, on se réfère aux êtres supérieurs, c'est-à-dire aux êtres qui ont réalisé directement la sagesse qui réalise la vacuité. D'accord ? Parce que là, ils ont en fait réalisé l'antidote parfait à l'ignorance. Donc on ne pourra jamais être trompé par cette sagesse. Cette sagesse, la seule fonction qu'elle peut accomplir, c'est de détruire l'ignorance. Elle ne peut pas créer de problème. D'accord ? Donc en fait, face à ce problème de notre ignorance, de notre attachement, de notre colère, des actions négatives qu'on a générées par-dessus, qui nous propulsent encore et encore dans des situations infernales, dans cette situation de samsara en fait pour nous, l'antidote parfait est la sagesse. Donc on prend refuge dans cette sagesse, on prend refuge dans la personne qui enseigne de manière parfaite cette sagesse, et on prend refuge comme aide, comme soutien, dans les personnes qui ont réalisé cette sagesse en nous.
Donc ce sont les Bouddhas, les Bodhisattvas, et puis les maîtres.
Bodhisattvas, encore même, il faut être beaucoup plus précis. Donc on prend refuge dans le Bouddha, dans le Dharma, donc la sagesse, et les êtres supérieurs, c'est-à-dire les Aryas. Du petit véhicule ou du grand véhicule, c'est-à-dire on prend refuge dans les êtres qui ont réalisé directement la vacuité. Ils peuvent être bodhisattvas comme ils peuvent ne pas être un bodhisattva. Il faut savoir aussi qu'il y a des bodhisattvas qui n'ont pas encore réalisé directement la vacuité. D'accord ? Donc ça c'est le refuge vraiment ultime, ce en quoi on prend refuge de manière ultime. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas céder aussi d'autres choses. Par exemple, justement, on va s'entraider entre nous. Et c'est important de s'entraider, de s'encourager, de se retrouver, de partager les mêmes aspirations, etc., de progresser, d'étudier ensemble. C'est très très important, de méditer ensemble, c'est très important. Mais on ne va pas prendre refuge ultimement en ça, parce qu'il y a encore de l'ignorance. D'accord ? Après aussi, là on peut peut-être étendre dans le dharma une notion, donc on prend vraiment refuge dans la sagesse, mais aussi on peut prendre refuge dans l'amour et la compassion. D'accord ? Parce que là, on va voir que, en fait, ça, cet aspect d'amour et de compassion, en fait, il va être un peu expliqué dans les deux deuxièmes lignes, la génération de l'esprit d'éveil. Donc, quand on récite cette prière de refuge, il faudrait, si c'est possible, avoir un peu cette compréhension et essayer de générer la très forte aspiration, de se dire, par exemple, dans tous les problèmes de ma vie de tous les jours, je vais essayer d'aller trouver la réponse, où ça ? Dans la sagesse. Ok ? Ou je vais essayer de trouver la réponse dans les problèmes de la vie de tous les jours, dans l'amour et la compassion. Ça, c'est vraiment prendre refuge. Ça, c'est vraiment être bouddhiste. Et si on récite juste les paroles, et que quand il y a des problèmes, par exemple, on va aller chercher la solution, en allant au cinéma, en se divertissant, etc., ben, ça, c'est pas vraiment l'attitude intérieure bouddhiste. D'accodac ?
Mais pour nous... Par exemple, on a un problème, on va chercher dans les livres, dans la parole, dans les écrits.
Dans un premier temps, là on parle de sagesse justement, non ? Il y a trois types de sagesse. La sagesse de l'écoute, la sagesse de la réflexion, et la sagesse de la contemplation. La sagesse de l'écoute, c'est quoi ? C'est justement écouter, lire, et à ce premier niveau on va dépendre de ce qu'on a vu hier, la généralité du son, c'est-à-dire même on ne va pas vraiment nécessairement comprendre, on collecte l'information, d'accord, et ça ne va pas vraiment être très efficace. Après on va se mettre à réfléchir. Quand on se met à réfléchir, on va mélanger les deux, la généralité du son et la généralité du signifié. Donc il y a l'information et on va mettre un sens derrière cette information. Ça va commencer à être beaucoup plus efficace. Le sens, lui, va être l'antidote, va être ce qui va être efficace. Là-dessus, on va développer le troisième type de sagesse, la sagesse issue de la contemplation, où on va dépendre uniquement de la généralité du signifié. On ne va plus du tout dépendre de la généralité du son.
Okay. Et ça va être quelque chose qui va être de plus en plus profond, de plus en plus puissant, de plus en plus subtil, qui va dépendre de moins en moins du concept. Ça va être une perception de plus en plus directe. Donc on voit bien que déjà pour développer la sagesse, il faut qu'on passe par ces trois étapes. Il faut qu'on développe ces trois niveaux de sagesse. Le premier permettant d'accéder au second, le second permettant d'accéder au troisième. Donc bien sûr au début, il faut qu'on lise, il faut qu'on écoute des enseignements. Après, il faut qu'on réfléchisse dessus. Par exemple, là, ce matin, on discute, donc vous recevez des informations, il faut que vous réfléchissiez sur ces informations, voir leur validité. Bien les comprendre, bien comprendre l'information qui est véhiculée pour générer une compréhension intérieure. Réfléchir dessus. Une fois que vous aurez abouti à une conclusion, juste, valide, il va falloir complètement intégrer cette conclusion en vous. Mais déjà, est-ce que la réflexion là qu'on a eue, elle est sensée pour vous? Et il faut que, en toute sincérité, honnêteté envers vous-même, vous examiniez et si vous trouvez des points un petit peu douteux, pas très clairs, etc., vous vous dites, tiens, ça c'est bizarre, tiens, ça c'est pas très sensé. Vous arrêtez et regardez ça, et même donc discuter entre vous, discuter par exemple, discuter avec moi, remettre en question ce que je dis, dire oui, mais pour vraiment arriver à une conviction très claire, très précise, et une conviction qui est juste, qui dépend vraiment d'un raisonnement logique sans faille. D'accord?
Bon, il y a l'Assemblée suprême qui ne parle pas tellement, parce que la Sangha, je voyais ça autrement, je pensais que c'était un effet de groupe d'étudiants. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui peut m'aider, qui peut m'apporter des réponses, qui peut me donner des chemins. Et là, tel que tu l'as présenté, je vois pas très bien.
Donc ça, c'est vraiment le refuge ultime. C'est vraiment ce qui va nous protéger de manière sûre à 100%. Par exemple, savoir qui est un être supérieur, c'est extrêmement difficile. Savoir qui est doué d'une sagesse qui réalise directement la vacuité. Donc, à notre niveau, on génère cette très forte aspiration, cette prise de refuge en tournant notre esprit vers ces êtres, mais on n'y a pas accès. Donc, effectivement, on va s'aider de nos amis, de la communauté, par exemple de Martigny, etc. Ça, c'est indéniable. Mais on ne prend pas refuge ultimement en eux, parce qu'il y a encore de l'ignorance dans tout ça. Que l'ignorance, elle, par exemple, mon ignorance, votre ignorance, si vous en avez, elle ne va pas pouvoir vous aider à résoudre le problème de l'attachement, de la colère, de l'ignorance, et de l'ignorance, oui. Seule la sagesse va pouvoir faire ça. D'accord? Mais, donc, pour continuer à avancer, on prend appui quand même sur les amis. Donc vous voyez la distinction là? On prend une manière provisoire un petit peu. Voilà. Mais ce n'est pas l'aide ultime. Ok? Et donc c'est important d'essayer vraiment de réfléchir comme ça quand on récite cette prière. Quand vous êtes chez vous, par exemple, si vous récitez la prière, prenez le temps. Des fois, c'est mieux juste de réciter cette prière et de réfléchir comme ça, que de faire plein d'autres prières après, derrière, et juste de répéter des... Parce que là, vraiment, vous essayez de développer les différents niveaux de sagesse, etc. Et donc, vous vous mettez vraiment en relation avec ce que vous êtes vraiment vous-même, et vous appliquez des antidotes, vous commencez à appliquer vraiment des antidotes en vous-même. Deuxième aspect, donc, il y a la prise de refuge, l'esprit d'éveil. Dans les textes, en fait, l'esprit d'éveil, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais il y a des techniques pour comment générer cet esprit d'éveil. Parce que des fois, juste en disant « Puissais-je atteindre la bouddhité afin d'être bénéfique à tous les êtres, grâce au mérite accumulé par l'écoute de l'enseignement », juste en récitant ces phrases-là, c'est pas sûr que je vais générer l'esprit d'éveil en moi. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'esprit d'éveil ? Donc un Bouddha, il a même parachevé l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil, c'est le souhait d'atteindre quoi ? L'illumination. D'accord ? Donc on peut générer bodhicitta en nous, on peut avoir bodhicitta en nous, mais on n'est pas encore Bouddha. Donc la définition de l'esprit d'éveil, c'est le désir d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. D'accord ? Donc on génère le souhait d'atteindre cet état parfait de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc plus on va étudier, par exemple, plus on va comprendre aussi ce que ça veut dire qu'être un Bouddha. Toutes les qualités infinies d'un Bouddha. Donc ça va avoir encore plus de sens. Dans les manuels, par exemple, de l'Amrim, il donne deux techniques principales pour générer l'esprit d'éveil. Les six causes et un effet, et l'échange de soi avec autrui. Donc des fois, c'est bien, juste en récitant cette prière, de prendre le temps un petit peu de générer, passer en revue ces étapes et d'essayer de générer en soi ces états d'esprit. Donc, six causes et un effet. Pratique préliminaire pour les deux, développer l'équanimité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire arrêter de fonctionner sur la base de des amis, des ennemis et des étrangers, comme ils disent ainsi de. Donc on va essayer de complètement casser cette distinction qu'on fait entre les individus. On va essayer juste de les voir de la même manière. Donc là on ne va pas aller dans les détails parce que sinon on va complètement changer de sujet. Et ça c'est le premier point. Sur cette base d'équanimité, on regarde tous les êtres comme étant égaux, d'accord, sans privilégier dire c'est un ami ou c'est un ennemi ou c'est un étranger. Ensuite, on va prendre conscience que on a pris renaissance dans le samsara depuis des temps infinis, et très souvent on a pris renaissance en dépendance d'une mère, et que cette mère elle a montré extrêmement une très grande bonté envers nous. Donc en méditation on peut vraiment aller en détail et contempler toute la bonté d'une mère qui est complètement inimaginable. Ensuite on génère le fort souhait de rendre cette bonté à cette mère, et on comprend qu'en fait tous les êtres ont été notre mère parce qu'on a eu des renaissances infinies. Donc on a eu un nombre infini de mères, et en fait on a pris renaissance de manière infinie, le nombre des êtres sont infinis, ils ont chacun été une fois au minimum notre mère, mais même plusieurs fois. Donc ils nous ont montré cette très grande bonté, on veut leur rendre cette bonté. Ok, donc tous les êtres ont été notre mère, ils ont été extrêmement bons envers nous, on veut leur rendre leur bonté. On développe ensuite l'amour, le très fort souhait que ces êtres obtiennent le bonheur et les causes du bonheur. Ça veut dire, quand on dit ça, vous savez, c'est le bonheur, déjà, il ne faut pas le voir à un niveau très superficiel. C'est le bonheur, ça implique aussi le bonheur, par exemple, de la libération. Et là, la chose très intéressante aussi, c'est les causes du bonheur. C'est-à-dire qu'on souhaite aux êtres qui développent l'amour, la compassion, la sagesse en eux. On souhaite qu'ils pratiquent la vertu en eux. Ensuite, on développe la compassion, le souhait que les êtres soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Donc, pas la souffrance grossière, juste les sensations déplaisantes. On souhaite aussi qu'ils soient libres de les sensations plaisantes issues de l'ignorance. Par exemple, on souhaite, pauvres Brad Pitt et Angelina Jolie, d'être libres de tous leurs problèmes, d'avoir tellement d'argent, tellement de facilité dans la vie. Il faut vraiment développer aussi la compassion pour ces êtres-là. Donc, plus tard, on verra, il y a trois types de souffrances, la souffrance de la souffrance, la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. On développe la très forte aspiration qu'ils soient libres de ces trois niveaux de souffrance. Et là, il y a une très belle chose après, dans la compassion. Le souhait qu'ils soient libres des causes de la souffrance. Il y a quelqu'un qui est vraiment terrible avec vous. Il est colérique envers vous, il vous fait du mal. En fait, on souhaite qu'il soit libre de cette colère, qu'il soit libre de cette méchanceté, de toutes ces actions négatives qu'il commet, parce qu'en faisant ça, il crée les causes pour sa propre souffrance future. D'accord ? Donc en souhaitant, en générant beaucoup d'amour et beaucoup de compassion, même d'une manière égoïste, en fait, on va être gagnant à 100%. Parce que si les gens ils deviennent tout gentils, remplis d'amour, de compassion, de sagesse, qu'ils abandonnent toutes les négativités, il ne va plus y avoir de problème pour nous. C'est vrai, non ? Anne-Lise.
Quand vous dites que, par exemple, si un être est prendre la colère, il crée donc les causes de sa souffrance future, ça veut dire que ça peut être sa souffrance future terrestre, comme sa souffrance future dans les autres pays.
Ouais.
Et puis, une autre question.
Bouddha est doué d'esprit, d'un esprit. Bouddha, à la base, avant, il était un être complètement ordinaire. Et il a complètement purifié son esprit, il a développé toutes les qualités possibles et inimaginables au niveau de l'esprit, qui fait qu'il est Bouddha. Et on va voir là, plus tard, aujourd'hui, un des aspects qu'on doit couvrir, c'est le potentiel de Bouddha. Chaque être a le potentiel d'atteindre cet état de pureté parfaite.
Est-ce qu'on peut conclure alors que c'est ça le Bouddha? Le Bouddha n'est pas une personnalité, c'est pas quelque chose, c'est la purité totale.
Un Bouddha,
et c'est quand on voit ici les images, ce sont des images qui sont créées par notre esprit, par notre. Ce sont des images nous aider.
Un Bouddha, il peut manifester ses aspects pour nous aider. Et l'aspect qu'il manifeste, c'est une partie intégrante de ce qu'il est. On va voir aussi, quand on va parler du potentiel de Bouddha, après, le résultat Bouddha, il a ce qu'on appelle différents corps. Et il y a des corps qui ne sont absolument pas perceptibles par l'être ordinaire, même le supérieur, ils vont être perceptibles uniquement par d'autres Bouddhas. Il y a des corps un petit peu plus grossiers, mais qui sont encore extrêmement subtils, qui vont être visibles uniquement par des Arya Bodhisattvas. Et il y a des corps beaucoup plus grossiers pour venir en aide aux êtres, d'accord, qui se manifestent, tel que Bouddha Shakyamuni. Ça, c'est un aspect relativement grossier par rapport à ce qu'est dans sa totalité un Bouddha. C'est une manifestation grossière pour pouvoir guider les autres. Mais donc le Bouddha a un esprit qui n'a ni début ni fin, d'accord. Au début, il était, quand je dis au début, c'est-à-dire avant d'être Bouddha, il était rempli de contamination. Il a travaillé, il a développé ses qualités, il a purifié ses fautes jusqu'à son apogée, sa totalité, quand il a atteint l'état de Bouddha. Et en fait, on est sur cette voie. On est en train d'essayer d'imiter ce parcours. Se mettre à l'abri de la souffrance et des causes de la souffrance. En fait, là, on peut mettre en parallèle, nous sommes dans ce qu'on appelle le samsara, donc je ne vous refais pas la blague d'hier, situation de souffrance, situation même, on peut dire, d'esclavage, esclave de nos perturbations mentales et de nos actions, de nos karmas passés, d'accord ? En opposition, la libération ou le nirvana. Libération, donc de quoi? De ce cycle des renaissances incontrôlées à cause du karma, des perturbations mentales. En obtenant le nirvana, on se libère des souffrances, de toutes les souffrances qui sont incluses dans le samsara. Et par exemple, dans ce véhicule du bouddhisme tibétain qui appartient au Mahayana, on ne se limite pas à vouloir juste obtenir la libération de la souffrance. En plus de ça, on veut développer toutes les qualités possibles et inimaginables pour atteindre l'état parfait de Bouddha, pour pouvoir aider les autres à se libérer de la souffrance. Pour pouvoir libérer les autres du samsara et les conduire à la libération, à l'illumination. Donc, bodhicitta, l'esprit d'éveil, tous les êtres ont été notre mère, ils ont été extrêmement bons envers nous. On veut leur rendre cette bonté. On développe l'amour, la compassion. Donc ces deux, amour et compassion, sont des pensées extrêmement puissantes. Et il serait bon, chaque jour, avant de commencer nos activités, d'essayer de générer ces deux attitudes en nous, d'amour et de compassion. D'accord ? Et encore une fois, d'essayer de bien voir l'étendue de ce que regroupe amour et compassion. Parce que très souvent, on a une attitude très réduite par rapport à ces pensées. Donc bien inclure aussi les causes du bonheur, d'accord, dans l'amour. Tenir le bonheur, mais les causes du bonheur. Et un bonheur le plus stable, le plus ultime possible. La souffrance, bien comprendre tous les degrés de souffrance qu'il y a. Bien comprendre aussi les causes de la souffrance, souhaiter qu'il soit libre de cette souffrance. Ensuite, on va générer une attitude extraordinaire qui se dit, moi et moi seul, à moi seul, je génère le courage, l'attitude de dire, je vais libérer les êtres de leur souffrance. Je vais les placer dans le bonheur. Puis après, on est réaliste, on se dit, ouais, mais je ne suis même pas capable de m'aider moi-même, vraiment, donc faudra peut-être que je développe les qualités pour pouvoir faire ça. Et qu'est-ce qui a les qualités parfaites pour aider les autres? Un Bouddha, un être pleinement éveillé. Donc je veux atteindre l'état de Bouddha pour pouvoir aider les autres. Ok? Donc dans ces deux lignes qui font référence à l'esprit d'éveil, en fait, on sous-entend par exemple méditation sur toutes ces étapes-là. Ou l'autre méthode qui est l'échange de soi avec autrui. Peut-être on va pas en parler tout de suite parce que sinon je vais pas avoir le temps de parler du reste. Quoi.
C'est sur, pour revenir sur la vacuité, qui est donc ami, ennemi, neutre.
Équanimité.
Oui, pardon. Et est-ce que c'est valable aussi pour le j'aime pas, pour tout ce qu'il y a sur ce jour?
Arrivé à un moment, ouais.
C'est pas du tout par rapport à des individus.
Ben, arrivé à un moment, il faut arriver à développer un état d'esprit complètement satisfait, qui en fait est juste complètement détendu. Et pour lui, ne désire ni quelque chose de spécial et rejette quelque chose, parce que ça, ce sont des choses qui dépendent de l'attachement et de l'aversion. Donc ça, c'est des attitudes, des perturbations mentales qui détruisent la paix de l'esprit. Donc c'est des choses qu'on essaie d'abandonner. Et il y a tout un ensemble de pratiques, même à des niveaux très subtils, où on apprend à juste accepter tout ce qui vient, sans développer attachement ou aversion, et juste donc essayer de cultiver cette paix intérieure remplie d'amour et de compassion, et donc de réagir toujours sur la base de cette paix intérieure qui dépend de la sagesse et amour et compassion pour venir en aide aux êtres. Est-ce que aussi vous avez des questions par rapport à la discussion de groupe d'hier, parce que en fait on n'a pas pris le temps de... Aussi il y a des gens qui m'avaient posé des questions après. S'ils peuvent les reposer peut-être, parce que ça, comme ça là, ils pourraient profiter de...
Je peux reposer ma question?
Oui.
J'avais demandé s'il y avait un esprit ou bien plusieurs esprits. Si chacun avait un esprit, même si au final, en parlant de la cruauté ou tout ça, l'interdépendance, il n'y a que un.
Donc à un niveau conventionnel, on a chaque individu a un esprit, un continuum mental qui lui est propre. D'accord ? Mais sa qualité, par exemple, claire et lumineuse, elle est identique chez tous. Là-dessus, il n'y a aucune différence. Mais par exemple, moi, dans mon esprit, là, en ce moment, j'ai un certain nombre de perturbations, et heureusement pour vous, vous ne les avez pas. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau de notre esprit, d'accord ? Ce qui ne veut pas dire que cet esprit, il existe en soi. À un niveau conventionnel, il y a une différence, d'accord ? Mais à un niveau ultime, cette différence n'existe pas de manière indépendante. Donc là, c'est un peu un casse-tête chinois pour notre esprit, à arriver à faire coïncider ces deux aspects d'une réalité d'une même chose. Mais aussi, un aspect qui est intéressant, c'est de voir, par exemple, quand on aura complètement développé notre esprit, qu'on aura atteint l'état de Bouddha, nous aurons un amour infini, une compassion infinie, un esprit omniscient qui connaît tous les phénomènes passés, présents et futurs. D'accord ? Et en fait, toutes les qualités de notre esprit, un autre Bouddha, il va les partager. Il aura exactement les mêmes qualités. Donc, au niveau juste de l'expérience, si on devait faire l'expérience juste de ces deux esprits, ils sembleraient complètement identiques. Hein ? Mais il n'empêche que leur historique, elle, est différente. Pour atteindre à cet état, ils ont eu des différences. D'accord ? Donc là, on peut les différencier. Mais, encore une fois, au niveau de l'expérience directe, juste de ces qualités, elles vont sembler être une, complètement unifiée. Donc les philosophes, quand ils débattent, ils vont dire non, ils sont séparés, ils ont deux entités séparées. D'accord ? Mais après, au niveau de l'expérience, si on était capable de juste voir les qualités d'un Bouddha ou d'un autre Bouddha, elles seraient identiques. On serait aussi capable de voir l'historique différent. Qui, elle, différente. D'autres questions? Donc, création, on parle de création à chaque instant. Il y a une création, un renouvellement au niveau subtil, c'est un renouvellement permanent. D'accord? à un niveau grossier, par exemple, on parle aussi de création de cet univers. Par exemple, cette planète, elle n'a pas toujours existé. Cet univers, il n'a pas toujours existé. C'est clair. Par contre, on ne parle pas de cause première au niveau temporel. Parce que, en fait, un phénomène, s'il est impermanent, ça veut dire qu'il change d'instant en instant, c'est un produit, il dépend de cause et de condition. La cause le précède. La cause elle-même est aussi un produit. D'accord ? Une cause, c'est aussi un résultat. Un résultat, c'est une cause pour quelque chose de ultérieur, on dit ?
Antérieur.
Non.
Avant ?
Non. Le résultat, ça va être la cause pour quelque chose qui va venir après. Ultérieur. Ouais. Donc, si on prend un produit quel qu'il soit, maintenant, c'est le résultat qui dépend d'une cause. Mais cette cause elle-même, c'est le résultat d'une autre cause. Et comme ça, à l'infini. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait une cause première, une cause temporelle première. Donc, définitivement, création pour tous les objets qui sont qualifiés d'être impermanents, produits, il y a une création. Ils n'existent pas à un moment, ils sont générés et même ils disparaissent. D'où la très grande importance de la compréhension de l'impermanence, parce que la plupart des phénomènes qui nous entourent sont complètement impermanents. D'accord ? Nous, on est complètement stupides, excusez-moi l'expression, mais on les considère intérieurement comme ils doivent toujours rester là. Mais leur nature, elle est complètement à l'opposé de ça, c'est une transformation constante. Ils ne peuvent pas rester. Donc bien sûr, on va souffrir. Et le sage, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde cette nature impermanente et il en est pleinement satisfait et il ne va pas s'attacher aux choses. Il va laisser les choses s'exprimer et exprimer leur impermanence. Chose toute bête, non ? On perd quelqu'un qui nous est cher, qui meurt. On souffre. Pourtant, on est, à partir du moment où on est, il y a une chose qui est inévitable, c'est qu'on doit mourir. Nous, intérieurement, on se leurre complètement, on déforme complètement la réalité, on ne veut pas accepter la réalité, et c'est ça qui nous fait souffrir. Par contre, si on acceptait la réalité, et si on ne s'attachait pas aux choses, on ne développait pas d'inversion, on n'aurait aucun problème. Autre question ? Je parlais des quoi ?
Des vents.
Donc, à un niveau, là, c'est une explication que je prends par rapport au tantra. D'accord ? Il y a des aspects grossiers, donc mentaux et corporels, mais en fait, plus on va à un niveau subtil, d'accord ? La matière, en fait, elle correspond à ce qu'on appelle des vents, des énergies. Donc dans le bouddhisme, ils disent vents, peut-être on pourrait plus, de manière occidentale, dire énergie. Donc il y a l'esprit et l'énergie qui est complètement en connexion. Ce que nous sommes vraiment en essence, l'aspect le plus conventionnel, le plus subtil qui est, c'est l'esprit de clair-lumière, avec un vent extrêmement subtil. Après, de cet esprit de clair-lumière, encore une fois, l'esprit de clair-lumière n'est pas sagesse, hein. C'est juste l'aspect conventionnel. Ça, hier, j'ai peut-être pas vraiment très très précisé. C'est l'aspect le plus subtil de notre esprit à un niveau conventionnel. Mais il n'est pas sagesse, il ne réalise pas directement la vacuité. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'on meurt, on va demeurer dans cet esprit de clair-lumière. À chaque fois qu'on s'endort, il y a un moment où on demeure dans cet esprit de clair-lumière. Quand on éternue, etc., tous les exemples qu'on a vus hier. Si cet esprit réalisait directement la vacuité, ce serait l'antidote à l'ignorance. Donc, vu le nombre de fois qu'on passe dans cet esprit de clair-lumière, ben, l'ignorance, elle devrait être finie depuis bien longtemps. Malheureusement pour nous, c'est pas le cas. Donc là, on parle juste de l'aspect le plus subtil de l'esprit, d'accord ? Et on disait qu'en fait, il faut unifier cet esprit plus subtil avec la sagesse. Donc, l'esprit de clair-lumière n'est pas sagesse. Okay ? De cet esprit de clair-lumière, avec ce vent extrêmement subtil, cette énergie extrêmement subtile qui est connectée, dû à des empreintes passées, on va générer des aspects un peu plus grossiers. Le vent va se mettre à, ou l'énergie va se mettre un peu à bouger et générer des aspects mentaux plus grossiers et aussi une matière plus grossière, en fait. Et si on essaye de faire un parallèle avec la science occidentale dit la matière à un niveau plus subtil, c'est cette énergie qui danse dans tous les sens. Okay. Donc, dû à nos perturbations mentales et au karma, donc à ce mouvement de vent et de conscience un peu plus grossière, il y a un assemblage qui est fait de cette énergie sous forme, par exemple, la science va dire d'atomes, de molécules, etc. Et donc va donner cette apparence grossière, ce monde grossier. D'où l'explication bouddhiste de dire, en fait, si on doit présenter un créateur, on va dire c'est l'esprit. C'est notre esprit. Et pourquoi dire notre esprit? Parce que notre esprit, encore une fois, sur la base de cet esprit clair, lumineux, on génère de l'ignorance, on génère l'attachement, la colère, on, là-dessus, accomplit des actions. Et c'est ça qui crée notre environnement et aussi notre apparence grossière.
Par rapport aux les aryas, ce sont donc ceux qui ont réalisé la vacuité
directement.
Directement.
Il faut rajouter directement.
Ah oui.
Parce qu'on peut réaliser la vacuité à un niveau conceptuel, d'accord ? Mmh. Et ça, là, on n'est pas encore considéré comme un arya. Et cette réalisation à un niveau conceptuel, elle peut nous aider de manière temporaire, mais elle n'a pas encore la force nécessaire pour détruire des niveaux d'ignorance d'une manière qui ne les retourneront jamais. On va pouvoir les pacifier de manière temporaire, mais il y a toujours les graines qui sont là derrière qui peuvent faire que ça revienne. Quand on réalise directement la vacuité, c'est-à-dire qu'on la réalise d'une manière non conceptuelle, on va commencer à abandonner des graines et elles ne reviendront jamais, ces graines. Donc, des niveaux grossiers d'ignorance, d'attachement, de colère, ils ne pourront plus jamais revenir. On sera débarrassé à tout jamais. Et avec la pratique, encore, cette sagesse, elle va aller éliminer les niveaux de plus en plus subtils jusqu'à complètement les abandonner. Claire lumière.
Les
arates, c'est ce qu'on appelle destructeurs de l'ennemi. Alors eux, c'est en fait, ils en sont beaucoup plus loin. Ils ont réalisé directement la vacuité et ils ont parcouru beaucoup, beaucoup de chemins qui ont fait qu'ils ont abandonné complètement, tout jamais, toutes les perturbations mentales. Tous les niveaux d'attachement, ignorance et de colère. D'accord ? Et alors après, il y a une petite distinction. Quelle est la différence entre un destructeur de l'ennemi, un arhat et un bouddha ? C'est qu'il a abandonné ce qu'on appelle toutes les obstructions à la libération, mais il a toujours les obstructions à l'omniscience. Il n'a pas encore un esprit omniscience. Et quel est l'obstacle ? Qu'est-ce qui fait obstruction à l'omniscience ? C'est ce qu'on appelle les empreintes. D'accord, des perturbations mentales. L'empreinte de la saisie, par exemple, d'existence intrinsèque. Quand on dit empreinte, c'est, par exemple, vous prenez un plat, l'exemple qui est typique est donné, vous cuisinez quelque chose dedans, surtout avec de l'ail, parce que... Donc, après, vous retirez tout. Il ne reste plus d'ail, il ne reste plus même des semences d'ail ou quoi que ce soit. Il y a juste l'odeur, l'empreinte. Et donc, un arhat, il a abandonné toutes les perturbations mentales, toutes les graines, mais il y a encore un petit peu l'odeur, le résidu d'odeur qui le voile l'omniscience. Donc on va peut-être reprendre là où on en était hier, que je regarde ma montre. Enfin, je passe à la vitesse supérieure là. Hein. Hier, on a vu donc l'aspect négatif un petit peu du potentiel de l'esprit, ouais. Bien voir qu'on a, on en a parlé surtout par rapport aux problèmes climatiques. Mais on peut voir que l'esprit, il est la cause de tous les problèmes qu'on rencontre. On prend le problème de l'Irak. Quel est le responsable? L'esprit. Quel aspect de l'esprit? Certainement pas l'amour et la compassion, je doute, la sagesse.
L'esprit.
Ouais. qu'est-ce qui pousse, sincèrement, si on regarde la situation, qu'est-ce qui pousse Bush à aller taper sur la tête hein? Le pouvoir, la convoitise, le pouvoir, l'ignorance. Je pense que l'ignorance, ça, très certainement, parce que quand on entend des trucs du genre de dire depuis que Saddam Hussein était déchu du pouvoir, le monde est un plus sûr. Quand on sait que, par exemple, il y a plus de 250 000 personnes qui ont été tuées depuis le début de la guerre en Irak, un monde plus sûr, un monde meilleur, excusez-moi. Donc bien voir encore une fois que c'est l'esprit. Et là, on regarde un petit peu des situations extérieures. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces processus mentaux, vous croyez qu'on les a en nous ou on les a pas? On les a. Et donc, en fait, il ne faut pas tellement se préoccuper de ces processus mentaux chez quelqu'un d'autre. Là, on prend ces exemples juste pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe en nous. Et on a ces fonctionnements en nous. Et si on les pousse à l'extrême, c'est ce qu'ils entraînent. Donc, il faut vraiment bien prendre conscience de ça et bien voir qu'en fait, ça entraîne de la souffrance pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et se dire, ok, maintenant j'en veux plus. Maintenant il va vraiment falloir que je m'applique à pacifier tout ça et au contraire développer un potentiel positif magnifique. Bien comprendre que tous nos problèmes au niveau de notre société, de notre famille, de notre travail, ils trouvent leur source ou ça, et plus particulièrement, ok, et il faut qu'on arrive à fonctionner vraiment comme ça. Quand on a un problème dans la vie de tous les jours, un truc tout bête, hein, quelque chose qui ne nous plaît pas, au lieu de dire ah, le fautif c'est lui ou c'est ça parce que la situation ça se passe pas bien, parce que se dire le problème il est à l'intérieur, il est dans mon esprit, c'est parce qu'il y a l'attachement, il y a la colère, il y a l'ignorance. Donc il faut apprendre petit à petit à pacifier ça. Quel est le potentiel positif à votre avis de l'esprit? Aidez-vous même d'exemples d'êtres qui sont connus. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre esprit de beau? Et cet amour, cette compassion, cette patience, cette sagesse, si on devait lui donner une forme extérieure, quel en serait le résultat? Parce que là, on a pris des exemples, non, de conditions climatiques désastreuses, de guerre, etc. Donc, des Mère exemples Thérésa. Positifs. Mère Teresa.
Dalai Lama, la violence, Gandhi.
Gandhi, le Dalai Lama.
L'abbé Pierre.
L'abbé Pierre.
Sœur Emmanuel.
Sœur Emmanuel.
Et tous ceux qu'on connaît pas.
Et tous ceux qu'on connaît pas. Donc, on pourrait presque inclure la plupart des prix Nobel de la paix, parce que généralement, ils font des très belles choses. Donc, en Italie, ils ont pas mal aussi des saints. Le plus connu, c'est peut-être Padre Pio, il y a eu Saint François. Donc, dans toutes les traditions spirituelles, même, on peut trouver des êtres extraordinaires, d'accord, qui ne sont que l'expression du développement positif de l'esprit, d'accord, du potentiel positif de l'esprit. Donc j'ai parlé de tradition spirituelle, mais aussi des êtres qui prenaient une apparence complètement laïque, sans aucune appartenance. Donc la même façon, il y a des êtres donc qui ont aidé de manière, comme on va prendre l'exemple de Mère Teresa, non, qui est allée à Calcutta, qui a créé ses hôpitaux, etc., qui a pris soin de milliers et de milliers de personnes, qui a soulagé la souffrance. Donc là encore, on va faire le même procédé. Même processus. Qu'est-ce qui cause ça? L'esprit. Mais, et les aspects, en fait. Quel aspect de l'esprit? Positif. Ok. Et bien voir que, en fait, ce potentiel de l'esprit, nous, on l'a. Et ce potentiel positif, on l'a. Et en fait, même, on va peut-être se mettre à parler maintenant, que chaque individu, il a le potentiel de Bouddha. il a potentiel Bouddha, ça veut dire quoi? Un potentiel positif qui peut être développé à l'infini. On a vu que l'esprit, il a une qualité de non-matière, donc d'infinitude. On peut développer ces qualités. Potentiel Bouddha, la définition plus ou moins, c'est un phénomène qui est apte à être transformé en un corps d'un Bouddha. D'accord? Donc c'est pour des raisons philosophiques, ils sont obligés de dire phénomène, etc. Mais donc c'est quelque chose qui peut être développé pour obtenir le corps d'un Bouddha. Un corps d'un Bouddha, c'est donc des qualités infinies. On va voir qu'il y a quatre corps d'un Bouddha. Il y a ce qu'on appelle, je vais vous faire un peu de cours sanskrit maintenant, le Svabhavakaya, le corps de nature. Le Svabhavakaya, le corps de nature. Parfois, il dit corps de nature véritable. Ça, c'est quoi? C'est, accrochez-vous, la vacuité de l'esprit omniscient d'un Bouddha. De l'esprit omniscient d'un Bouddha. Mais bon, ça vaut la peine hein, d'essayer d'étudier un peu ça, parce que c'est ce qu'on peut atteindre. Donc, ensuite, il y a le Dharmakaya, Dhyana Dharmakaya, le corps de sagesse véritable, le corps de vérité, corps de sagesse de vérité. Ça, c'est l'esprit omniscient. Le corps d'un Bouddha. Donc là, je m'arrête déjà, je dis que on a le potentiel d'être omniscient. Qu'est-ce que vous comprenez par omniscience ? Donc, l'omniscience, c'est la connaissance de tous les phénomènes passés, présents et futurs. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est presque du Star Wars, la guerre des étoiles ou Star Trek, je ne sais pas. On a le potentiel de connaître tous les phénomènes passés, présents et futurs. Vous avez un esprit ? Ouais ? Vous êtes plus sûr ? Ils sont même plus sûrs d'avoir un esprit. Dommage ! Donc chacun d'entre nous ici présents, on a le potentiel de connaître tous les phénomènes passés, présents et futurs. C'est-à-dire entre autres, on est, je ne sais pas, une quinzaine, entre autres, et c'est vraiment une infime partie, vous êtes capable de connaître tout le moindre aspect de l'esprit de toutes les personnes qui sont ici, depuis le début de leur vie, mais bien même toutes les incarnations précédentes. Vous connaissez exactement tous les aspects de leur esprit au moment présent, mais aussi tout ce qu'ils vont développer dans leur esprit par la suite et dans leur vie future.
Non, mais si c'est infini.
Ben quoi? Vous voyez pas la tête d'Élise? C'est dommage.
Non, mais c'est infini de savoir, de connaître toutes les vies, mais si c'est à l'infini.
C'est pas un problème. Pour les bouddhistes, ce n'est pas un problème parce que l'esprit a une capacité infinie. Et effectivement, pour notre esprit cartésien, rationnel, limité, là, ça, c'est un problème. Comment on peut appréhender l'infini? L'esprit a cette capacité. Ok? Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle le Sambhavakaya, ou le corps de jouissance, qui a cinq caractéristiques particulières. Il est doté de ce qu'on appelle les 112 signes majeurs et mineurs, donc on ne rentre pas dans les détails là. Il n'enseigne que l'enseignement du Mahayana, il demeure dans ce qu'on appelle une terre pure d'Akanishta, il demeurera jusqu'à la fin du samsara, c'est-à-dire ce corps qui est manifesté par un Bouddha, il ne disparaîtra que quand tous les êtres sensibles, sans la moindre exception, auront été libérés du samsara. D'accord? Et le dernier point, c'est qu'il n'enseigne que aux Arya Bodhisattvas. Et il est visible en fait donc que par les Arya Bodhisattvas. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un Arya Bodhisattva? C'est un être qui a la réalisation de Bodhicitta, c'est-à-dire que son esprit est complètement imprégné de l'esprit d'éveil, le désir d'atteindre l'illumination pour le bien de tous les êtres. D'accord ? Et en plus, il a réalisé directement la vacuité. Donc pour les érudits parmi vous, c'est un être qui aurait déjà atteint le chemin de la vision sur le sentier du Mahayana.
Mais est-ce que vous dites que c'est le seul à avoir la capacité de voir le maître?
Il y a quelqu'un vraiment qui insiste. Hein? Excuse-moi.
Lui seul a la capacité de voir le maître qui va lui enseigner ça?
Non, donc il y a, là on parle de ce qu'est un Bouddha, d'accord? Un Bouddha il a quatre corps, là on en est au troisième. Donc le premier c'est, on a dit, la vacuité de l'esprit omniscient. Le deuxième c'est l'esprit omniscient. Ces aspects de vacuité de l'esprit omniscient et de l'omniscience, il est visible uniquement par les Bouddhas. D'autres êtres ils ne sont pas capables de voir ça, d'accord? Pour le corps de jouissance, en fait c'est un corps qui est un peu plus grossier, qui est visible non seulement par les Bouddhas, bien sûr, mais aussi par les Arya Bodhisattvas. Mais, par exemple, un Arya, donc un être supérieur qui pratique, qui suit le véhicule, par exemple, du Theravada, lui, il n'est pas capable de voir ce corps subtil. Il est trop subtil. Nous, sauf s'il y a des Arya parmi vous, des Arya Bodhisattvas, rien à faire. Ok ? À cause de ça, le Bouddha, il va manifester des corps plus grossiers, qui vont nous permettre de rentrer en relation avec lui, et comme ça il va nous guider pour petit à petit nous libérer du samsara. Et ça c'est ce qu'on appelle le nirmanakaya, ou le corps d'émanation. Et il y a différents aspects, mais on ne rentre pas dans les détails. Un exemple c'est donc le corps d'émanation qu'on appelle Bouddha Shakyamuni. Okay, nous en fait on a presque l'impression que Bouddha Shakyamuni c'était un être à part entière. D'un point de vue bouddhiste, d'un point de vue de l'école du Mahayana, tel qu'il est présenté dans le bouddhisme tibétain, ce n'est qu'une manifestation, une manifestation parmi des milliards, on pourrait dire, d'accord ? Donc une manifestation d'un Bouddha. Il y a cet esprit omniscient d'un Bouddha qui génère un corps de jouissance pour aider les Arya Bodhisattvas. D'accord ? Et parfois il est expliqué de ce corps de jouissance, il y a une multitude, une infinité de corps qui sont manifestés pour aider les êtres. Vous avez déjà fait parfois, non, certains d'entre vous, des pratiques de visualisation où par exemple vous visualisez Bouddha médecine et de son cœur il y a des rayons de lumière qui partent dans toutes les directions. D'accord ? Il est dit qu'en fait, par exemple, ce Bouddha médecine, ça pourrait être l'apparence d'un corps de jouissance ou Sambhogakaya. Il y a ces rayons de lumière qui partent dans toutes les directions, et ces rayons de lumière, à leur extrémité, ils vont toucher les êtres et ils vont se manifester sous la forme qui convient le mieux à cet individu pour le faire progresser. D'accord ? Donc, il pourrait presque y avoir autant de corps d'émanation que de rayons de lumière. Ok ? Et les Bouddhas, sans cesse, ils irradient les êtres de leur bénédiction. D'accord ? Le seul problème, c'est que nous, on a la tête dure. Et que, en fait, on est comme, on se retrouve dans la même situation d'un soleil, par exemple, et nous, on est un pot qui est retourné. D'accord ? Si on n'a pas d'énergie positive suffisante, si on n'a pas d'ouverture d'esprit suffisante, ces rayons de soleil ne peuvent pas nous atteindre. Pas la faute du Bouddha. Non, lui, il est l'amour et compassion équanime pour tous. La faute à nous-mêmes. Après, vous pouvez vous douter, vous dire, bah, pff, en fait, moi, je suis pas bien, je suis pas Jojo, parce que moi, les Bouddhas, ils se manifestent pas devant moi. Il n'y a personne ici dans la salle qui ne génère pas de temps en temps des qualités positives. Quand on génère une attitude vertueuse en nous, dans les textes, il est dit, ça, c'est l'activité illuminée des Bouddhas. On reçoit les bénédictions des Bouddhas. Donc, chacun d'entre nous ici, on reçoit par moments plus ou moins fréquents les bénédictions des Bouddhas. À chaque fois qu'on génère, vous pensez générer une pensée positive, c'est l'œuvre de l'activité illuminée des Bouddhas. D'accord ? Donc, Après, le corps d'émanation tel que Bouddha Shakyamuni, il est expliqué en parlant des 12 actes d'un Bouddha, mais on ne va pas rentrer dans les détails non plus parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Là, je regarde un peu les notes de ce que je voulais parler aujourd'hui. Vous voulez faire une petite méditation ? Hein ? Ouais ? Non ? Vous voulez plus rien ? Vous êtes complètement satisfait, plus d'aversion, plus d'attachement. Annelise. Oui. Donc, corps d'émanation en général, et il y a différents types. Un exemple, c'est le Bouddha Shakyamuni. La nature de ? Donc le corps de nature véritable, oui. Ouais. On fait 5 minutes de break et puis on fait une méditation après ? Je crois parce que tous les vannes, ils sont tous dehors.
C'est une méditation, tout le monde quitte. 5
ouais.
minutes alors ?
Ouais, ouais, 5 minutes. On va faire en fait deux courtes méditations. La première, méditation toute simple, pas forcément très très agréable, mais très utile. On va juste regarder notre esprit. D'accord ? Donc vous allez juste regarder à l'intérieur et regarder les pensées qui s'élèvent. Regardez si peut-être, je ne sais pas, certains d'entre vous vont voir la clarté de leur esprit. Et juste donc vous regardez toutes ces pensées d'amour, de compassion, de sagesse, d'attachement, d'orgueil, d'ignorance, sans porter le moindre jugement, sans essayer de faire quoi que ce soit. Juste vous regardez votre esprit, tout simplement pour vous familiariser un petit peu à développer cette capacité d'introspection, à regarder à l'intérieur, d'accord, à regarder et reconnaître ce qui s'y passe. Vous voyez ce qu'on peut faire là ? Ouais ? Donc on va le faire pendant 7 minutes parce que si on le fait plus, peut-être ça va être un peu dur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette méditation, en fait, c'est vraiment quand on médite sur le Mahamudra, on va commencer à faire ça. D'accord ? Et en fait, petit à petit, on va voir que quand on fait cette méditation, les pensées, donc, elles se suivent. D'accord ? Il y a une pensée qui apparaît, on n'essaie pas de la retenir, on n'essaie pas de la chasser. Donc, elle va disparaître, elle va donner sens à une autre pensée, etc. Et plus on va faire ça, en fait, plus on va s'apercevoir à un moment que entre chaque pensée, il y a un espace. D'accord ? Et on va essayer petit à petit d'apprendre à reconnaître cet espace. Cet espace, c'est justement un espace clair et lumineux, sans manifestation après, sans nuage, entre guillemets. D'accord ? Et à force de faire cette méditation, on va être capable de reconnaître de plus en plus cet espace qu'il y a entre les pensées, d'allonger cet espace, et au bout du compte, en fait, l'esprit va complètement retrouver donc, cette paix naturelle de luminosité, et on va demeurer concentré sur cet aspect lumineux, vaste de l'esprit, un peu comme on avait fait hier quand on avait essayé d'imaginer ça en imaginant notre esprit comme étant le ciel. Donc on a essayé d'imaginer parce qu'on ne peut pas y avoir accès. Donc là, je vous ai donné en réalité comment obtenir véritablement une perception de l'esprit clair et lumineux. On commence par regarder notre esprit, juste donc les pensées qui s'élèvent, sans essayer de les retenir, sans essayer de les chasser, et petit à petit en fait on va prendre conscience qu'il y a un espace, un petit intervalle entre ces deux pensées, et que cet intervalle est la nature de clarté et de luminosité. Donc là pendant 7 minutes, boum, on regarde juste les pensées. Et maintenant, comme hier, vous allez imaginer, essayer de vous rappeler quand vous promeniez dans la montagne, et après une ascension où vous vous allongez dans un pré. Complètement détendu. et vous observez le ciel, complètement bleu, sans le moindre nuage. Et vous perdez petit à petit dans cette immensité lumineuse. Votre esprit devient un avec le ciel, libre de toute pensée, complètement détendu dans cette lumière bienfaisante. Et si des pensées apparaissent, vous les laissez se dissoudre tel un petit nuage qui disparaît dans cette immensité. Vous laissez disparaître tel qu'une petite bulle d'air qui remonte à la surface de l'eau et disparaît. Et vous demeurez simplement dans cette pureté lumineuse. Et maintenant, toute l'énergie positive qu'on a accumulée au cours de cette matinée, on va la dédier, on va l'offrir pour que toutes les souffrances des êtres et les causes des souffrances soient instantanément pacifiées et qu'au contraire, tous les êtres sans exception, incluant nous-mêmes, nous obtenions le bonheur et les causes du bonheur. Cite l'offrande du mandala et les dédicaces en français, page 14. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des quatre continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je vous envoie ce mandala de joyaux, ô maître précieux. Grâce à ces mérites, puissé-je rapidement atteindre la bouddhéité et conduire tous les êtres sans exception à cet état. Puisse l'esprit d'éveil précieux et suprême naître là où n'est pas né, ne pas dégénérer là où est déjà apparu, mais s'accroître de plus en plus. Dans ce paradis de montagnes neigeuses, vous êtes la source de tout bienfait et de tout bonheur. Ô tout puissant Tenzinkyatso Chenrezi, puissiez-vous rester jusqu'à la fin du samsara. Et Kyati Sensha Rinpoche, donc un des maîtres de sa sainteté le Dalai Lama, donnait comme conseil, généralement, quand on fait des prières, aussi de faire des prières très personnelles. En utilisant nos propres mots, d'accord. Si on utilise nos propres mots, très souvent, il y a beaucoup plus de ressenti. Donc, un ressenti, c'est vraiment l'état de pensée, d'être, qui va vraiment nous permettre de nous transformer intérieurement. Le mot en lui-même, non. Ok, donc utiliser un petit peu des prières très personnelles. Aussi, quand il disait très personnel, des prières d'aspiration, par exemple, pour vous-même, de ne jamais être séparé des êtres complètement purs, de pouvoir toujours pratiquer, etc., de toujours pouvoir venir en aide aux êtres, aux individus, etc. À 2h30, il y a les cahiers de groupe de discussion. Alors, je vous propose... À 1h30, oui. 1h30 à 2h30.
Vous notez les questions, ceux qui passent. Sophie prendra ta place pour les musulmans.
C'est les mêmes copies.
Oui, Pauline, tu vas avec Élise. Elle te guidera.
Alors, le sujet de discussion du jour, quels sont les effets de la colère, par exemple? La colère est-elle souhaitable? Donc vous pouvez après discuter de l'attachement. Anna nous suggère oui. Donc vous pouvez parler de l'attachement aussi, de après l'ignorance, de l'orgueil, de la jalousie. Donc après discuter des aspects négatifs de l'esprit et de leurs effets, ça en général, donc ça regroupe cette question. Ensuite, parler des aspects positifs de l'esprit et de ses effets. Donc ses effets sur nous-mêmes, sur la société, sur l'environnement, etc. Donc c'est une question qui est en fait assez vaste, peut couvrir beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc une heure sera bien peu même peut-être pour couvrir tous ces aspects-là. Et puis maintenant, ben, on va aller préparer le déjeuner.
La question a été notée.
Je répète. Alors, quels sont les effets de la colère, par exemple? La colère est-elle souhaitable? Donc, faire la même chose pour les autres perturbations mentales, telles que l'attachement, l'orgueil, la jalousie, l'ignorance. Discuter des aspects négatifs de l'esprit et de leurs effets. Donc là, ça regroupe un peu cette première question. Et ensuite, discuter des aspects positifs de l'esprit et de leurs effets. Sur nous-mêmes, sur l'environnement, sur la société, sur nos relations avec les gens. Donc 2 heures, 1 heure et demie à 2 heures et demie, puis 3 heures à 5 heures après, on se retrouve ici. Pour continuer à...
J'ai laissé la foi dans Je vais poser des papiers sur la table là derrière pour ceux qui veulent commander les enregistrements aussi.